Radio Caravane.
Radio Caravane. De l'ombre des coulisses
à la lumière de la piste.
Radio Caravane.
Bonjour et bienvenue sur Radio Caravane. Au programme d'aujourd'hui, l'IA, ennemi du doublage. Nous en discuterons avec Hélène Austin, comédienne voix off. Ensuite, découverte de la passerelle négronaise avec Esteban de l'association Sosino.
Mais tout d'abord, exploration du monde du magazine Par le peuple, pour le peuple, avec Léa V. Curtis, illustratrice, tatoueuse et créatrice de fanzine.
Bonjour Léa.
Bonjour.
Voilà, on a vu que tu faisais pas mal de trucs, notamment dans l'art, le tatouage, le design.
Ouais.
Peut-être que tu peux commencer par nous parler de ton parcours.
Bah ouais, carrément. En fait, quand j'étais au lycée, je voulais faire des trucs artistiques, mais j'y vais à la campagne, il n'y avait aucune option artistique. Je pensais vraiment pas faire ce genre de métier. Dans mes études, je me suis orientée dans l'art, mais plus tout ce qui est histoire de l'art, médiation, tout ça. Et en fait, j'ai fait jusqu'à un master recherche en art appliqué. Et en fait, quand tu sors de master recherche, il n'y a pas vraiment de travail. Du coup, je me suis dit, bon, je tente le tout pour le tout et je vais essayer de me lancer dans l'illustration, tout ça. Et en fait, très vite, j'ai toujours aimé le tatou. Avant de faire du tatou, j'étais déjà quelqu'un de beaucoup tatoué et j'ai un peu, pareil, tenté sur un coup de tête en mode on sait jamais. Et en fait, maintenant, c'est mon métier, quoi, et ça marche.
On a vu que tu faisais autre chose que du tatouage, comme des fanzines ou du design graphique, de l'illustration, de la photo.
Pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'un fanzine, ce serait de définir ce que c'est.
Avec plaisir. Un fanzine, en gros, c'est un magazine, mais qui est fait de manière artisanale. Le but, c'est pas que ça soit hyper beau, hyper classe, hyper léché.
Le fanzine, comment tu as découvert ça?
Quand j'étais ado, je suis vraiment tombée amoureuse de la culture punk, et notamment de la culture punk des années 70-80. Les premiers fanzines viennent de cette culture-là, où à la base, c'était juste des magazines qui parlaient de musique et que les gens écrivaient eux-mêmes à la main, photocopiés, genre chez un marchand de journaux, et après se passaient entre eux. Et j'étais hyper fan de ça. J'ai eu la chance de grandir avec Internet. Il y avait plein de fanzines des années 80 qui étaient plus trouvables papier, mais qu'on pouvait trouver en PDF sur Internet. Et je m'étais toujours dit, ah, quand je serai adulte, je ferai des fanzines aussi. Et du coup, je me suis lancée. Mais je crois que mon premier fanzine, c'est quand j'étais à la fac. Et à l'époque, je faisais plus des fanzines plus littéraires, de poésie, ou alors un peu plus politique. Genre, un des premiers fanzines que j'ai fait, c'était sur la condition des migrants sur l'île de Lesbos en Grèce. Et du coup, à la base, je faisais plus des fanzines comme ça. Et petit à petit, c'est devenu des fanzines plus artistiques. Où, là, en ce moment, je fais plus des fanzines autour de la cuisine et des recueils de recettes.
Ouais.
Mais ouais, ça vient vraiment de la culture punk et du fait que j'étais hyper fan de punk quand j'étais plus jeune.
J'allais te demander s'il y avait une sorte de message que t'aimais bien récurrent dans tes fanzines, de un peu militant ou quoi que ce soit.
Moi, c'est vrai que là, dans les fanzines que je fais maintenant, je fais plus que des fanzines collectifs où je demande aux gens de me partager des choses. Et notamment, c'est pour ça que j'ai pris l'axe des recettes de cuisine. Je trouve que tout le monde a des choses à partager en cuisine. Et le but de ces fanzines collectifs, c'est que n'importe qui, même des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont l'impression qu'ils sont pas artistes, puissent participer. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est de montrer que n'importe qui, s'il a envie, peut faire des fanzines, qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être graphiste ou illustrateur pour pouvoir réaliser des choses.
Ouais, on a vu que tu faisais beaucoup de projets aussi, souvent en groupe.
Oui.
Ou peut-être avec des assos, je sais pas,
oui.
Qu'est-ce que ça t'apporte, peut-être les projets en groupe plus qu'individuels.
Du coup, j'ai deux facettes dans mon métier. J'ai une facette qui est axée sur le tatouage, où même si je suis pas seule parce que je tatoue des gens, l'aspect travail et dessin, je suis vraiment seule. Et du coup, c'est vrai que ça me manquait de travailler avec des gens et rencontrer des gens avec qui partager des choses. Et c'est pour ça que je fais beaucoup, encore une fois, de fanzine collectif ou que je travaille avec des assos, juste parce que je considère que tout le monde a quelque chose à dire et a quelque chose à apporter. Et que moi, je suis un peu un intermédiaire qui permet d'apporter sur un support le message des autres gens. Notamment là, récemment, j'ai travaillé avec trois amis artistes sur un fanzine En gros, en Aveyron, il y a beaucoup de communautés qui viennent d'ailleurs en Europe. Et notamment, il y a des communautés espagnoles, il y a aussi des personnes qui sont kurdes, etc. Et du coup, on a fait un fanzine pour montrer qu'en Aveyron, qui est quand même une zone très rurale, il y a aussi plein de gens qui viennent d'horizons différents. Et en fait, on a fait ça avec une association qui s'appelle Mescladis, qui est basée à Decazeville. Et ça nous a permis de rencontrer des gens qui auraient jamais pu porter cette voix si on l'avait pas fait. Et c'était hyper enrichissant. Et en plus, c'était entre les deux tours des législatives, donc c'était d'autant plus nécessaire. Et du coup, oui, ça m'a appris des choses personnellement et ça m'a permis de vraiment de pouvoir aider ces gens à parler de leur histoire. Et c'était hyper chouette comme projet.
Mmh. Oui, j'ai vu que tu avais fait un fanzine, il me semble, sur toutes les langues ou dialectes en Aveyron, non?
C'est oui, pas mais ça. C'est celui-là.
C'est exactement ouais. Celui-là. Ouais.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que tu es venu faire à Radio Caravane?
Eh bien, je suis ici pour justement animer un atelier fanzine avec les personnes de la promo, de cette 14e promo. Et du coup, pareil, avec le but que tout le monde partage quelque chose et qu'on construise ensemble un fanzine en quelques heures, quoi.
Pour revenir à tout ce que tu fais comme activité, est-ce que tu arrives à facilement jongler avec tout ça, la photo, le tatouage, l'illustration, les fanzines?
J'y arrive, ça fait 4 ans que je le fais, mais c'est pas toujours facile. Et il y a des moments où je suis vraiment obligée de mettre des activités en pause pour en faire d'autres. Notamment, quand j'ai des projets de fanzine, je mets mon activité de tatouage en pause. Une des choses hyper bien avec le statut d'auto-entrepreneur et le statut d'artiste, c'est que tu peux vraiment aménager ton temps comme tu veux. J'ai cette liberté-là qui est assez chouette.
Est-ce que, donc on avait une question aussi concernant ton nom d'artiste. Ouais. Est-ce que c'est un pseudonyme?
Totalement un pseudonyme. Mm-hmm. En fait, c'est un pseudonyme que j'ai depuis hyper longtemps. Pareil, au-delà de la culture punk, j'ai beaucoup traîné dans la culture internet. Et quand j'étais ado, j'étais fan donc de punk, de post-punk, et notamment d'un groupe qui s'appelle toujours d'ailleurs, Joy Division, et le chanteur de Joy Division s'appelle Ian Curtis, et j'étais vraiment genre en idolâtrie. J'ai eu une grosse phase de groupie sur lui, et du coup j'ai pris le nom de famille de Ian Curtis parce que je trouvais ça trop stylé. Et le V qui est au milieu, c'est parce que mon vrai nom de famille commence par V, et que j'étais aussi fan de manga et de One Piece.
Ah.
Et que je trouvais que mon kid dit Luffy c'était trop stylé, et
je
du coup
savais.
Je me suis... C'est vrai?
Oui, ah, je savais.
Ça fait plaisir que des gens voient la ref. Et du coup oui, j'ai vraiment j'ai fait Léa V Curtis,
la volonté du V.
Tout à fait.
C'est lent. Mais est-ce que tu aurais un site?
Oui, carrément. Alors, j'ai un site internet qui s'appelle leavcurtis.fr. Et après, pareil, j'ai une page Instagram que je mets à jour plus souvent, lea.v.curtis.
D'accord, ok, très bien. Et merci Léa, c'est
merci
terminé.
Beaucoup.
Ouais, merci beaucoup. Merci à vous.
Et maintenant, Hélène Austin nous présente les dessous du métier de voix off, ainsi que la menace qu'incarne l'intelligence artificielle.
Bonjour, comment tu t'appelles?
Bonjour, donc je m'appelle Hélène Austin.
Tu es comédienne voix off, peux-tu nous expliquer ce métier?
Écoutez, c'est tout simplement toutes les voix que vous entendez dans votre quotidien, que ce soit à la télé, à la radio. Ce sont toutes les voix qui viennent animer, alimenter des projets visuels. Ça peut être aussi les voix dans les jouets pour les enfants. On peut les retrouver, les voix off aussi, sur les documentaires. On peut retrouver les voix off au train. Voilà, on entend des voix un petit peu partout. Et en fait, ce sont des gens comme vous et moi qui sommes derrière le micro.
Comment as-tu découvert cette passion pour la voix off?
C'est passé par le doublage. Donc j'ai toujours adoré en fait les voix dans les dessins animés depuis toute petite, les voix des films aussi avec mes acteurs préférés, j'entendais toujours des voix qui revenaient régulièrement. Puis le jour où internet est arrivé, c'est-à-dire que je parle d'un ancien temps, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller regarder. Je savais pas qu'on pouvait voir le nom des voix. Du coup, j'ai tapé sur internet la voix de tel personnage, c'est qui, et j'ai découvert comme ça de grands noms du doublage. C'est un autre métier encore que la voix off. À côté, j'ai toujours eu un lien avec la voix, que ce soit par le chant, par l'approche thérapeutique. J'adore jouer avec ma voix, faire des espèces de voix bizarres, des voix de personnages. Et en fait, très souvent, pendant plus de 10 ans, j'ai des personnes qui me disaient « Ah, mais tu devrais faire du doublage, doubler des dessins animés, faire des personnages de cartoon. » Et j'adorais l'idée, mais à chaque fois que je regardais sur Internet à nouveau, les formations, elles étaient assez loin. Et il y a quelques années, j'étais en voyage, et là, pas une journée où des gens que je ne connaissais pas me disaient « Ah, oh, tu devrais faire du doublage !» Et là, je me suis dit « Mais quand même, faut que je creuse, quoi. Si j'écoute, entre guillemets, les signes de la vie, qu'est-ce que ça donne, quoi ?» Et en refaisant de nouvelles recherches, je suis tombée sur une formation de voix off au studio Elixir. Et du coup, j'ai fait 6 mois de formation avec un groupe exceptionnel que je salue, que j'adore.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ?
Je crois que c'est de donner vie à un projet. On est un petit peu, avec ce métier-là, on vient donner du corps, on vient donner vie. À mon sens, hein, c'est ma perception, ça n'engage que moi. C'est beaucoup de messages, en fait, la voix. Hein. On fait des messages publicitaires, des messages pour les enfants, ça peut être du livre audio. Enfin, donc, ce qui me plaît, c'est la largesse d'utilisation de la voix off. Donc, on peut finalement toucher à plein de domaines en ne bougeant pas de derrière son micro, quoi. Donc, on découvre plein de choses et j'adore ça. En fait, c'est très riche.
Les technologies et l'IA sont de plus en plus présentes. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier ?
C'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui, de se projeter, de savoir comment ça va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, elle prend de plus en plus sa place, et pas de façon, on va dire, légalisée, mais dans le sens légiférée, enfin, c'est pas structuré, quoi. Donc aujourd'hui, tout le monde, même un enfant qui a accès à un téléphone, peut avoir accès à de l'IA. Je trouve que ce qui m'inquiète, c'est l'utilisation qui va pas au service de l'humain. Dans le sens, aujourd'hui, on peut faire dire à n'importe quoi, à n'importe qui. Par exemple, moi, je peux te filmer en train de parler et grâce à l'IA, transformer tes propos et te faire dire complètement autre chose avec la même vidéo, quoi. Et ça, moi, je trouve que, bon, sur le côté récréatif, why not, c'est un peu rigolo, mais ça fait moins rigoler quand on dit des propos diffamatoires, quand on part sur des choses qui sont assez malsaines, qui sont pas dans le respect d'autrui. Voilà.
Ça, maintenant que tu me le dis, j'ai déjà vu une sorte, c'était Télé Simpson en plus, genre en vidéo, hein, mais c'était genre les dialogues, c'était pas les mêmes du tout que du film, ça a été remixé du coup, mais avec les mêmes voix, ça avait gravé. Mais...
Ouais, alors des fois, enfin, il y a des trucs hilarants, hein, franchement, moi je suis
ouais,
pas
quand
là.
C'est pour de la, quand c'est du, pour de l'absurde,
oui.
Dire des choses où il faut des licences, où il y a des droits d'auteur ou des choses comme ça qui peuvent pas...
Oui,
ouais, on va dire c'est l'IA pirate, quoi.
Oui, après, on appelle ça les parodies sont souvent autorisées, entre guillemets, tolérées, on va dire. Mais quand on fait dire à un président ce qu'il n'a pas dit, ou enfin voilà, peu importe, en fait, quand on a des métiers aussi assez importants et qu'on nous fait dire n'importe quoi, enfin voilà. Et pour rester dans le domaine de la voix off, forcément, ça a un impact. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de studios à qui on demande d'utiliser l'IA et pas de vraies voix, quoi. Donc, ou alors d'enregistrer des voix pour alimenter l'IA, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu, je vais pas dire la guerre, mais c'est un vrai sujet, en tout cas dans le milieu, quoi. Il faut être très attention à quel type de projet on nous appelle, voilà. Mais je reste persuadée que la vibration humaine, la vibration de la voix humaine sera toujours remarquable et plus puissante qu'une voix d'IA.
Peux-tu nous faire une voix d'un personnage que tu aimes bien ?
Ben moi, j'aimerais beaucoup, mais alors beaucoup, le faire avec cette voix. Bonjour, bienvenue sur Radio Caravane.
Excellent, c'est vraiment c'est impressionnant.
J'aime bien.
Est-ce que tu as un site internet sur lequel on peut écouter ta voix ou un portfolio ?
J'ai un Instagram qui s'appelle Hélène a de la voix et j'ai quelques productions dessus. J'ai réalisé un petit court-métrage pour un festival. Il y a des extraits, je pense. Je suis en voix off dessus. Donc voilà, j'ai mis quelques partages de projets.
Bah, merci d'être venue à Radio Caravane. Et Hélène, du coup.
merci beaucoup. Merci pour votre super radio. Merci pour vos belles voix et votre présence et vos questions très pertinentes.
Merci à vous, Hélène. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Merci, vous aussi.
Pour conclure cette émission, visite de la passerelle Negrenaise et des actions de l'association culturelle Sauzigno.
Je vais vous faire la présentation de l'asso parce que ça fait 6 ans que je bosse ici, depuis que je suis arrivé à Toulouse en tant que bénévole pour mes études et tout ça. Une asso où j'ai pas quitté. J'espère bien vous raconter quand même, montrer pourquoi moi ça, j'ai pas quitté ce lieu. Voilà.
Et du coup, la SAS a des locaux ici à la passerelle ou...
Ouais, on a nos bureaux qui sont juste là. Okay. Et du coup, si vous voulez, même si vous voulez vous rapprocher un petit peu derrière. Donc ici, c'est juste là derrière, ce sont nos bureaux. Nous, l'asso, elle a démarré en 2009-2010 à peu près. Ça a commencé en s'installant ici. C'était une asso basée purement événementielle et culturelle pure. Où c'était des enchaînements de plus d'une centaine, 200, 300 concerts en 2-3 ans. En faisant notamment par exemple des gros tremplins de musique. Et donc ils se sont ramenés ici, c'était au départ c'était que des bénévoles. Ils ont réussi à accumuler une trentaine de bénévoles, ils étaient tous à plein temps. Et c'était à fond un vrai rythme. Sauf qu'à un moment ça a commencé à manquer un peu de sens et ils ont commencé à s'investir dans d'autres concerts qui leur ont un peu plus ouvert les yeux sur d'autres problématiques. Ils ont commencé à faire des concerts en prison, à la prison de Muret, ils ont commencé à faire des concerts pour le Secours Populaire, pour Action Contre la Faim. Et là, ils ont réellement apporté un sens à leur action culturelle, ils ont ajouté le social au culturel et ça a été comme un espèce de flash, quoi. C'était le truc. Là, on est à 2009-2015 à peu près. Le quartier dans lequel ils étaient implantés dans leur bureau, le quartier Négrenaise, qui était un quartier prioritaire à la politique de la ville. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, QPV. Non. C'est du coup un statut qui est donné par la mairie et la CAF, qui est calculé en fonction du salaire moyen des habitants. Le quartier Négrenaise, c'est un tout petit quartier, mais qui représente une énorme mixité avec des logements sociaux, mais des logements aussi un peu plus riches. Mais c'était quand même un quartier assez pauvre de base. Avec des soucis que rencontre un quartier comme celui-ci, donc grand trafic, il y avait des règlements de compte, tout ça. Et c'est là où, en fait, avec cette dimension sociale ajoutée à leur événement, ils se sont dit on va mettre un premier pas quand même dans le quartier et on va commencer à s'investir, à commencer à occuper la rue de manière plus positive. Et ça a commencé avec une action toute simple qu'on fait encore aujourd'hui qui s'appelle les Cafés Livres. Donc c'est à la sortie des écoles, on a un petit stand avec des bouquins, des sirops, c'est gratuit. Ça nous permet de pouvoir du coup rencontrer les jeunes et aussi leurs parents pour pouvoir parler un peu plus d'action et de besoins. Et ça a été notre première entrée dans le quartier, première en fait action de consultation. Et suite à ça, du coup, énormément de besoins se sont révélés. Sozinho a toujours eu cette volonté à faire de la culture. Et là, du coup, c'était vraiment faire du social par la culture et ont donc commencé à récupérer le premier lieu sur la rue en 2018 qui est le lieu d'art. Si vous voulez, on peut aller tous aller dedans. Là actuellement c'est une exposition suite à une performance de Syke, grand graffeur toulousain, un des 10 premiers graffeurs toulousains, qui est maintenant de renommée internationale, suite à des dégâts dans son atelier, son atelier s'est fait entièrement brûler. Donc il a perdu des années et des années et des années d'archives et il est venu par des contacts ici pour profiter de lieu de résidence que l'on a. Et après on lui a proposé de dégommer notre lieu d'art en faisant une performance de 10 minutes à base de...
Lancer de peinture.
Ouais, vraiment, grosse performance. Quoi. Sur ce système-là d'exposition, on propose du coup tous les deux mois à des artistes de venir, de prendre l'intégralité du lieu et d'en faire une réelle performance pour exposer leur travail. En contrepartie, on leur demande quand même de s'investir pour le quartier et donc de faire des activités, des initiations artistiques, c'est comme ça qu'on appelle, pareil, une de nos premières actions, avec les enfants, deux fois par mois, donc pour qu'ils montrent un peu leurs compétences artistiques aux enfants aussi. C'est un peu la contrepartie. Et du coup, après, ça nous amène en 2019 à l'ouverture du café associatif, notre lieu de vie. Donc c'est en 2019 qu'ensuite on a récupéré ce lieu, qu'on en a fait un café associatif. C'était anciennement un bar PMU. Donc on a racheté le bail de commerce et on a pu enfin ouvrir ce lieu qui est maintenant notre vraie carte de visite. C'est le lieu d'accueil, c'est le lieu qui est suridentifié par les Toulousains, mais aussi surtout par les habitantes et les habitants du quartier. Et donc là, c'est à partir de ce jour-là, on vient nous voir presque tous les jours, pour tout et pour rien. Et chaque besoin en fait, se révèle de plus en plus. Et du coup, nous, on décide d'actionner en fonction de ces besoins-là. Et on a un peu fonctionné sur les années qui suivaient sur un besoin, un nouveau lieu, une nouvelle action. Donc le café, il a permis d'ouvrir, d'avoir déjà de réceptionner aussi des artistes quand ils faisaient des initiations artistiques, des choses comme ça, mais aussi des concerts tous les vendredis soirs, plus d'animation on va dire dans le quartier. Et là les habitants disaient vraiment qu'on amenait une certaine vie dans le quartier, l'occupation était vachement bien plus présente. Là actuellement on a commencé aussi des expositions d'artistes locaux, mais très locaux. On a Alan qui est un patient de l'hôpital Gérard Marchand, donc hôpital psy, qui nous avait sollicité pour faire une exposition. Et on s'est dit mais en fait pas la peine d'attendre 2 mois que le lieu il se ferme ici, donc on a accroché toute une série d'œuvres à lui à l'intérieur et on va en faire une nouvelle récurrence maintenant à la soirée. Et donc après 2020 on peut s'orienter vers l'angle là-bas. On commence à récupérer les lieux et évidemment le Covid nous tombe sur la tronche. Mais le Covid ça nous arrête pas. On décide déjà pendant le premier confinement de déployer toute une programmation sur les réseaux. Donc là c'est, on a enchaîné tous les jours des live Facebook, ça, et derrière ça continue à bosser, travailler pour pouvoir ouvrir les prochains lieux. Donc le lieu collectif, la cuisine solidaire, le lieu numérique et le lieu de résidence au fond.
C'est quoi la cuisine solidaire ?
La cuisine solidaire, c'est un lieu qui a été mis en fonctionnement maintenant il y a 2 ans à peu près. On avait nos locaux depuis quelques temps. C'était une volonté de pouvoir rassembler les personnes du quartier autour d'actions et de la cuisine. Maintenant, on fonctionne avec on a 2 ou 3 ateliers cuisine par mois qui sont soit en mixité, soit en non-mixité, par demande aussi des habitants du quartier. Et surtout, on accueille des résidences de chefs culinaires. Là, c'est en ce moment, c'est Scander, qui fait de la cuisine méditerranéenne et on leur propose du coup pendant plus de 5 mois de s'investir dans cette cuisine-là pour pouvoir s'expérimenter aussi, mais avec des conditions qui sont quand même assez strictes. C'est qu'on fonctionne avec le marché d'intérêt national, on récupère des invendus, donc il faut cuisiner en fonction de ces invendus-là, il faut cuisiner végétarien et il faut cuisiner avec des prix, du coup une fourchette de prix qui soit le plus accessible possible. Donc ensuite, il y a eu le deuxième confinement et pendant ce deuxième confinement, on a pu nous retrouver pour faire des travaux. Pendant ces travaux, on a donc réalisé cette petite suite d'espace. Le lieu collectif, qui est donc en fait une salle polyvalente qu'on met à disposition aux habitantes et aux habitants. C'est un lieu qui nous est hyper utile, c'est un outil pour que l'on puisse se retrouver, mais qu'on mette aussi à dispo à d'autres assos pour qu'ils puissent se retrouver eux. On y fait maintenant la plupart de nos concerts les vendredis soirs. Avec le confinement, il y a un vrai besoin qui s'est révélé aussi, ça a été l'accès au numérique, mais pas que ça, c'est l'accès à l'imprimante, l'accès au wifi, l'accès au droit, du coup, faire toutes ces démarches administratives. Et donc, si on va juste par là, le numérique, c'est un lieu qui a connu multiples transformations au cours de ces dernières années en essayant de s'adapter au mieux. Au début, c'était vraiment l'équivalent d'un espèce de cybercafé avec des ordi à disposition. Mais maintenant, en jugeant le pour et le contre, on est vachement plus allé vers un lieu d'accès au droit où on y accueille des permanences d'écrivains publics. Donc 4 fois par semaine, il y a des écrivains publics qui se ramènent ici dans ce lieu pour aider les habitantes et les habitants dans leur démarche administrative. C'est les seules permanences d'écrivains publics à Toulouse qui sont sans rendez-vous. Du coup, on ne s'est pas limité à ça. Maintenant, il y a des permanences d'aide au logement, permanences psy, permanence juridique. L'asso, elle fonctionne beaucoup comme ça, c'est on a des lieux, on a des envies, on a du nombre, mais on peut aussi surtout en fait inviter des personnes qui ont les compétences qu'on n'a pas pour pouvoir répondre à des besoins qu'on n'était pas en mesure de répondre avant. Donc maintenant c'est le lieu d'accès au droit, on accueille aussi à l'intérieur notre micro-bibli, donc c'est une sorte de bibliothèque accessible pour les enfants et les ados. Et donc là, au fond, c'est le lieu de création, donc notre lieu de résidence qui fonctionne de manière assez similaire au lieu d'art, au lieu d'exposition. C'est tous les 2 mois un nouvel artiste avec du coup une entrée de résidence au début et une sortie de résidence pour présenter tout son travail. Donc ils ont le lieu pendant 2 mois et ils en font absolument ce qu'ils veulent. Et ensuite, du coup, seul lieu auquel on n'a pas parlé, c'est le jardin. donc c'est un jardin pédagogique, mais vous verrez, c'est à genre 200-250 mètres d'ici, par là-haut.
C'est une gueule de fraise, ça.
Ça, c'est des tomates, même.
Le jardin pédagogique de l'asso. Ça fait 2 ans qu'on a commencé un peu à le mettre en place, à le mettre à jour, parce que ça faisait à peu près 30 ans que ce terrain était en friche anciennement. Et donc après, c'est avec l'aide de bénévoles et d'habitantes et d'habitants qu'on a pu, de nos adhérents aussi, qu'on a pu le remettre au goût du jour. La volonté de ce jardin, c'est vraiment que ce soit aussi un outil assez clé pour pouvoir accueillir différents publics, accueillir, ce soit un peu l'outil idéal pour y mener des actions. On n'y fait pas que de la pédagogie autour de la biodiversité, de la transition écologique et tout ça. C'est aussi permettre d'avoir un espace vert pour le quartier. Nous, ce qu'on va planter ici, par exemple, on ne plante pas assez suffisamment sur les petits bacs de plantation. On plante pas suffisamment pour pouvoir fournir la cuisine entièrement. Donc, c'est pas un jardin de production. C'est pas un jardin qui est non plus ouvert tous les jours pour tous les habitants, pour qu'ils puissent y planter, se servir, faire ce qu'ils veulent. C'est pas un jardin partagé, c'est vraiment cette volonté de transmission, de pédagogie, où on a des partenariats, par exemple avec la crèche, on est passé devant, où ils viennent une fois par semaine, ils sont venus ce matin pour découvrir un peu, on fait des petites activités ensemble. On accueille d'autres assos aussi qui, eux, accueillent leur public là pour y faire des goûters, se voir, se retrouver. Il y a des assos plus orientés vraiment sur la transition écologique et tout ça qui profitent pour en faire des formations aussi à d'autres personnes. Donc voilà, c'est un peu cet outil. On l'utilise aussi pour nos événements, parce que du coup on a toujours gardé cette fibre événementielle à l'association où on adore recevoir du monde ici, des concerts. Toute occasion est assez bonne. Donc globalement pour l'historique de l'asso, on a commencé avec de l'événementiel et de la culture, et c'est vraiment notre ADN, c'est quelque chose qu'on garde au sein de notre asso et qui est défini maintenant par le projet qui s'appelle Réseau Culture. Donc Réseau Culture, ils organisent tout ce qui est le contact avec les artistes, mais aussi tout ce qui est événementiel à plus haute échelle. On fait 2-3 fois par an des gros événements en dehors du lieu qui s'appellent les Nocturnes, où là c'est des soirées autour de la création live. Où du coup c'est concerts, performances d'artistes, tout ça, dans des lieux un peu incongrus dans Toulouse. On a fait ça plusieurs fois au musée des Augustins, on a fait ça au sein du conseil départemental, dans le théâtre des Mazades, à la bibliothèque d'études et du patrimoine à côté de la chapelle carmélite. Voilà, c'est toujours des grosses soirées qui réunissent en règle générale un bon millier de visiteurs, donc qui nous font toujours plaisir. C'est un peu ce genre d'action qui vont galvaniser toute l'équipe. Parce qu'on est assez nombreux, on est une vingtaine à travailler dans l'asso entre les services civiques, les alternants et les salariés. Et c'est vraiment les projets fédérateurs, où là on met nos projets entre guillemets un peu sur pause pendant 2 semaines et on se met tous à fond sur ces événements-là. Moi c'est comme ça que je suis tombé amoureux de l'asso, c'est vraiment je suis arrivé pour un premier stage de 2 semaines où à 3h du matin on m'a fait vider des camions en courant et je me suis dit ah mais en fait c'est vraiment ça l'événementiel. Là je suis dans le concret et je parle avec des gens qui parlent vrai, enfin c'est ça qui m'a fait rester. Donc Réseau Culture, c'est le premier projet. Après, quand on a visité toute la passerelle avec cette vocation sociale dans le quartier et ouvrir un peu les portes de la culture et essayer de répondre au mieux aux besoins des habitantes et des habitantes, ça, c'est la passerelle Négrenaise. Donc tous les lieux sur la rue, ça regroupe ça, c'est cette volonté d'être en lien et de pouvoir alléger des quotidiens, faciliter certaines choses, sensibiliser où on peut et surtout accueillir et écouter avec un lieu de vie comme le café. Du coup là, nous on est sous l'entité Sosigno, c'est l'association. On est sous 3 projets, donc Réseau Culture, la passerelle Négrenaise et le dernier projet en date, c'est les Parcours Faire.
Oui, les Parcours Faire, du coup c'est tous les projets pédagogiques de l'association Sosigno. Et du coup, ça se divise en plusieurs sous-projets encore. Il y a le projet qui est le projet de découverte métier, où on accueille un groupe de 10 jeunes entre 16 et 25 ans, qui sont souvent orientés par la mission locale, Pôle emploi, etc. Qui sont en décrochage scolaire, éloignés de l'emploi, qui se posent un peu des questions sur ce qu'ils veulent faire. Et du coup, ils viennent pendant 1 mois, 3 jours par semaine. Et le but, c'est de leur faire découvrir des métiers du secteur culturel et de leur faire organiser un événement de A à Z. Donc vraiment de penser l'événement, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et tout le processus jusqu'à la réalisation de l'événement qui marque la fin du parcours. Et après, on a d'autres projets, notamment via Passe Culture, qui est un projet avec les collèges et lycées pour apporter des ateliers artistiques et culturels en complément du programme scolaire. Souvent, c'est des profs des collèges et lycées qui nous appellent, qui ont des envies, qui cherchent
à monter des ateliers, mais qui n'ont pas forcément les réseaux et tout. Et nous, comme du coup, ça fait 15 ans qu'on développe un réseau, on a un gros réseau d'artistes dans tous les domaines. Et du coup, on fait le lien, on fait la coordination des projets en mettant en réseau les artistes et les profs.
Et du coup, ouais, Sosinio, ça a fêté ses 15 ans l'année dernière. On a profité pour un peu mêler tout ce qu'on pouvait faire, les parcours faire, la passerelle, réseau culture, sur un gros événement sur 2 jours, où on a bloqué l'entièreté de la rue des Anges pendant 2 jours. On a installé des scènes dans les parcs, dans le parc d'à côté. On a installé une scène dans le. Enfin, 2 scènes, un dans la rue, un dans un parc, et on a essayé de retourner le quartier du mieux possible. Donc les parcours faire ont aussi fait un événement pendant ces 2 jours-là, qui était un peu annexe, du coup les découvertes métiers, qui ont investi l'intégralité du jardin aussi avec leur propre programmation. Voilà. Donc globalement, c'est ça, Sosinio.
Vous venez d'écouter Radio Caravane, votre portail vers la culture en tout genre.
Retrouvez toutes les interviews en intégralité sur notre site radiocaravane.net.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Médias Communs et Yves Assam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur 10 des radios partenaires.
Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.